Antoine Lanoir, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Paris depuis 6 ans.
Elle enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu. Elle est également doyenne de cette institution depuis maintenant 2 ans. Avant cela, elle a été notamment directrice du Centre œcuménique de rencontres Agapé en Italie. Ses recherches portent principalement sur la famille et les relectures féministes et postcoloniales de la Bible. Elle donne des formations à la lecture de la Bible, par exemple en Amérique latine. Et parmi ses dernières publications, on compte le cahier Évangile consacré à Jacob, publié en mai dernier.
Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc la question de ce matin, c'est Dieu, de quel genre est-il ? Je vais essayer de traiter cette question de la façon suivante. D'abord, une petite remarque concernant un incident récent montrant que la représentation patriarcale de Dieu est loin d'être dépassée. Parce que si vous pensez Dieu, vous pensez Dieu le Père, souvent. Enfin, beaucoup de gens pensent ça, en tout cas. Et puis, on va donc essayer de voir sur quoi repose cette construction de genre. Et je vais vous emmener voir quelques représentations féminines du Proche-Orient ancien. Et on va lire aussi un ou deux textes qui sont des os dans l'Ancien Testament pour savoir comment dépasser cette représentation-là. Et je finirai par quelques propositions ou quelques suggestions pour une relecture un peu différente. Alors, je commence par un petit incident qui, en lui-même n'est pas très important, mais il montre bien un certain nombre de choses. À la fin de l'année 2012, donc il n'y a pas très longtemps, en Allemagne, une journaliste a interviewé la ministre d'Éducation, Christina Schröder, et elle lui demandait, alors je ne sais pas dans quel contexte, enfin c'était une interview sur l'éducation, et elle lui demandait quelque chose qu'en France, on ne demanderait certainement pas à un ministre d'ailleurs, s'il lui était difficile de parler de Dieu au masculin à sa fille. Je ne veux pas le brancher maintenant. Christina Schröder a répondu que oui, c'était un peu compliqué, mais que finalement, on pourrait tout aussi bien donner à Dieu le genre neutre, puisque en allemand, on a cette possibilité qui n'existe pas en français, c'est-à-dire d'appeler Dieu non pas der, mais das. Bon. Et alors, ça a soulevé un tollé en Allemagne, en particulier chez les conservateurs, pour qui apparemment Dieu est toujours du genre masculin, clairement, sans négociation. Une élue chrétienne démocrate, rapporte une journaliste de la vie, a dit qu'elle s'est dite muette devant une telle stupidité de faire une proposition de ce genre. Et un autre a dit que pour nous chrétiens, Dieu est manifestement le Père, il doit en rester ainsi. Et il est triste de retirer à nos enfants les images fortes qui sont si importantes pour leur imagination. Voilà, Allemagne, 2012, on n'est pas si loin. Donc la question du genre de Dieu, et d'ailleurs par la même occasion de ses représentants dans le monde, n'est pas aujourd'hui une question annexe ou dépassée. Et elle ne concerne pas seulement non plus les autres religions. Elle nous atteint directement dans le christianisme. Parce que pendant longtemps, on a pensé Dieu, et on continue à le penser, comme essentiellement masculin. Rappelez-vous d'ailleurs une image qu'on a vue hier, le Dieu au cœur du soleil, dans les images de Sébastien Castellon. Il n'était pas particulièrement féminin. Et encore aujourd'hui, mettre en question le Dieu Père, c'est mettre en question toute une construction, tout un paradigme de la réalité. Dieu, en général, le Dieu chrétien, est un vieil homme blanc. souvent d'ailleurs assis sur un nuage même. Et cela affecte la façon dont nous nous voyons et dont nous voyons les autres, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Et dont nous voyons aussi les autres qui ne seraient pas à l'image de Dieu. Alors d'où vient cette affaire? Cette image du Dieu mâle et père donc repose sur une construction de genre qui a la vie très dure. Donc, comment ça marche? On utilise une différence sexuelle, le masculin, le féminin, mais pour la présenter comme une opposition, masculin contre féminin, et non seulement une opposition, mais on va construire cette opposition dans un ordre hiérarchique, avec des dominants et des dominés. Et donc avec le masculin et le féminin, enfin, ou au masculin et au féminin, on va attacher toute une série de rôles sociaux, de représentations symboliques, ce qu'on appelle une construction de genre, hein, le genre étant l'ensemble des rôles sociaux et des symboles qu'on attache à un sexe, qui en soi ne les porte pas. Et donc non seulement on va les opposer, mais les organiser hiérarchiquement. Alors, le travail des théologiennes féministes depuis une cinquantaine d'années maintenant, en particulier, a tenté de mettre en évidence ce phénomène, de dénoncer aussi l'image de Dieu qui en découle, qui peut devenir complètement idolâtre s'il n'y a plus d'espace entre cette image qu'on donne de Dieu et l'idée de Dieu en général. Parce que cette façon de parler et de représenter Dieu pour un certain nombre de gens sur la planète, et en particulier les femmes, est assez inintéressant et même immoral, puisqu'il justifie des systèmes de domination qui existent un peu partout. Alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la théologie féministe, c'est pas notre sujet. Je vous cite juste une réflexion de Mary Daly, donc une théologienne féministe qui, dans son livre Beyond God, The Father, dit « Dieu le Père est un symbole qui sert à justifier une organisation sociale où les femmes sont subordonnées aux hommes. » Et une des citations qu'on fait souvent d'elle, c'est cette phrase « Si Dieu est mâle, le mâle est Dieu. » C'est simple, mais ça dit pas mal ce qui se passe. Et donc ça organise non seulement cette subordination des femmes aux hommes, mais aussi tout un tas d'autres, parce qu'il y a toute une série de dominations qui découlent de celle-là. Et donc l'ordre symbolique patriarcal rend les femmes absentes de toute représentation de la divinité. Et il se rend aussi complice de cette subordination et de cette domination qu'il installe. Donc, un christianisme qui se forme à l'intérieur d'une société patriarcale peut en devenir le simple reflet, voire même la caution. Alors, le christianisme a-t-il des ressources pour dépasser cette pensée hiérarchique qui justifie des modèles de soumission et redevenir évangile, bonne nouvelle? Les féministes sont partagées à ce sujet. Il y en a qui jettent tout et qui disent « il n'y a plus rien qui sert là-dedans ». C'est trop contaminé par la pensée patriarcale. Il y en a d'autres qui disent non, on peut encore récupérer des choses. Si ça vous intéresse, il y a de très bons livres qui peuvent vous mettre un peu au courant de tous ces débats. Moi, je vais reprendre des choses par l'autre côté, c'est-à-dire essayer de voir est-ce qu'on peut repérer des moments et des évolutions très anciennes qui reviendrait dans cette image complètement actuelle hein, du Dieu-Père plus ou moins indépassable. Alors là, je vais reprendre une hypothèse que vous trouverez aussi dans un article de DTR, les études théologiques et religieuses, formulée par Thomas Remer, mais je vais la décliner un peu autrement. C'est que, en fait, c'est l'invention du monothéisme, c'est-à-dire le moment où Après l'exil à Babylone, les choses changent énormément dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est le moment où on va écrire beaucoup de choses. Enfin, je pense que Dani a dû peut-être vous en parler hier aussi. Ce moment-là, donc de constitution en fait d'un vrai monothéisme, est le moment aussi qui a signifié l'éviction du féminin dans la représentation divine. Et du coup, on va essayer, puisqu'il n'y a plus qu'un seul Dieu, il faut enlever tout ce qui traîne autour. Et tout ce qui traîne autour, c'est en particulier toutes les divinités féminines qui existaient aussi. Alors, je vous ai amené quelques représentations. Et donc, il y a un moment où, comme on va éliminer toutes ces divinités féminines, ben on va, la seule façon de pouvoir récupérer quelque chose, c'est de projeter sur Yahvé, en fait, quelques attributs féminins. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure, mais je voulais d'abord vous montrer quelques images. Alors, donc là, je vais utiliser un travail qui n'est pas de moi. Donc, c'est une chercheuse, Kathleen McCaffrey, qui a présenté ça à un dernier colloque où j'ai assisté cet été. Mais donc, j'ai aussi changé la présentation, mais je réutilise complètement toutes ces images. Donc, je lui en suis très reconnaissante parce qu'elle a fait un beau travail. Alors, si on se promène dans le Proche-Orient ancien, on voit ça. Pendant très longtemps, c'est-à-dire des figurines qui sont de petite taille en général. Alors, un des grands problèmes, c'est de savoir ce que ça représente. Est-ce que ça représente des déesses ou est-ce que ça représente des femmes? Ben, à vrai dire, on n'en sait rien. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est des déesses. Bon, c'est pas toujours évident, à mon avis, mais en tout cas, elles ont des caractéristiques bien précises. Vous voyez qu'elles sont toutes plus ou moins dans la même position, c'est-à-dire elles sont nues et elles sont debout face au spectateur, donc il y a l'idée qu'il va y avoir une possibilité de dialogue, et elles tiennent leur sein avec leurs mains. Voilà. Après, vous voyez que selon l'endroit où on les trouve, hein, que ce soit à Chypre, en Anatolie, en Iran, en Syrie, en Mésopotamie ou dans les pays du Levant, le Levant, c'est tous les pays qui sont sur la côte méditerranéenne, ce qui correspond aujourd'hui au Liban, à la Syrie, en fait, enfin pas tellement à la Syrie, au Liban, et en descendant. Donc, il y a une grande diversité de provenance géographique. Et elles sont en général trouvées dans des contextes domestiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des figurines qu'on va trouver dans les temples, mais qu'on va trouver dans les maisons. Et donc, il va y avoir toute une évolution de cette représentation qu'on trouve depuis très longtemps. Hein. On a des figurines comme ça au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, et elles vont continuer à apparaître, à disparaître, à être... remodeler selon les moments. Voilà par exemple une figurine qu'on a trouvée à Ur, donc du côté de Babylone, 2100 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un petit talisman de fertilité? Est-ce que c'est un jouet? Est-ce que c'est un ex-voto? Là, vous avez toutes sortes de débats passionnés et très précis entre les archéologues et les interprètes de ces objets. On trouve ici, parmi les objets qu'on trouve au Levant, donc vous avez ici un sceau cylindre. Donc un sceau cylindre, c'est une petite gravure qu'on a sur une pierre dure en général et qu'on peut. Alors s'il est cylindre, ben, il est cylindrique évidemment et on peut le rouler. Et ça donne, si vous voulez, ça déroule plusieurs fois la même scène, mais ça lui donne donc une vie, une existence qui peut continuer. Et donc là, vous voyez ici donc le personnage toujours le même, hein, féminin, toujours la même représentation. avec ici un personnage qui lève son bras, et ce geste-là, c'est un geste tout à fait codé dans les représentations, ça veut dire qu'il est en train de respecter et d'adorer le personnage du milieu. Donc là, on a l'impression que c'est plutôt une divinité, effectivement. Et on retrouve ici dans ce récipient en métal, donc la même figure de la déesse nue, mais cette fois-ci aussi, tout à fait intéressant, la figure elle est là, hein, voilà. On voit aussi cette étoile à 8 branches qui est tout à fait typique d'une façon de représenter Ishtar, la grande déesse de la fertilité et de beaucoup de choses dans le Proche-Orient ancien, qu'on appelle aussi Astarté dans d'autres cultures. Alors, si je continue, vous voyez qu'on la trouve aussi on a ce genre de choses qu'on retrouve dans plusieurs endroits qui sont des espèces de petits modèles réduits de temples. Et dans ces modèles réduits de temples, on trouve aussi souvent la déesse qui est là, entre ces deux piliers, vous voyez, avec aussi des représentations symboliques qui accompagnaient souvent cette déesse, c'est-à-dire soit une colombe, comme vous avez ici, soit cette branche de palmier qu'on a ici aussi. Alors, on a aussi des représentations d'Ishtar qui sont très masculines, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre le masculin et le féminin. Il n'est pas organisé du tout comme nous, on l'a organisé ensuite. Parce que vous voyez ici une représentation d'Ishtar, donc une femme. Alors, vous voyez qu'elle n'est plus du tout nue, elle est très habillée même. Mais elle est habillée avec un costume qui est plutôt un costume d'homme, avec un grand manteau, avec en dessous une tunique, et une tunique ouverte qui permet de laisser, vous voyez, on la trouve ici aussi, on voit la jambe là, parce que la tunique s'arrête en haut de la jambe, pour justement donner plus de mobilité. Et alors, où est-ce qu'elle pose sa jambe? Vous voyez qu'elle pose sa jambe sur un lion, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, hein. Donc on a là la représentation de la puissance et de la domination du sauvage. Et en plus, Ishtar, elle a derrière elle, vous voyez, des armes, c'est-à-dire qu'elle a des flèches et un arc, et donc c'est une déesse guerrière. On la retrouve aussi ici, pareil, avec tout son attirail, ses flèches, ses armes, et debout sur un lion. Donc là, on a la maîtrise du monde. Et c'est une femme qui est maîtresse du monde dans ce cas-là. Et toujours le personnage devant qui est en position d'adoration. Alors, plus tard, surtout en Juda, dans le pays de Juda, on va trouver de nouveau cette figure, mais vous voyez qu'elle a changé, c'est-à-dire que c'est plus une femme nue, c'est ce qu'on appelle une figure pilier, parce que en fait, c'est un cylindre qui permet de faire reposer ces figures sur le sol. Donc on n'est plus du tout intéressé par la question fertilité, sexe, etc., mais plutôt par quelque chose qui montre un personnage en possibilité de dialogue, là encore. Hein. Et c'est la figure et évidemment les bras et la poitrine qui sont mis en relief. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des dômes, donc plus dans le sud, à peu près au même moment, on commence à voir des représentations de femmes nues. Mais alors, si vous regardez bien, il faut vraiment bien regarder, elles ont un petit pénis. Et donc, il y a une espèce de mélange entre les deux sexes qui vont apparaître de plus en plus. Et plus on va aller en évoluant dans l'histoire, et plus on va arriver donc dans les périodes hellénistiques, donc déjà assez loin, qui sont caractérisées par le fait qu'on est dans des grandes villes babyloniennes où il y a des mélanges de populations, hein, où des populations grecques et babyloniennes se mélangent. Et là, on va voir réapparaître ces figures de femmes nues, comme les très anciennes qu'on avait avant, mais cette fois-ci, elles ont à la fois des attributs féminins et des attributs masculins. Elles ont un sexe féminin et un sexe masculin. Et ça n'avait pas l'air de déranger grand monde. Enfin, tout avait l'air d'être tout à fait normal de trouver ces représentations-là. Et ça va aller dans un sens particulier, c'est que vous avez par contre, par exemple, du côté de Babylone, un monstre qui s'appelle le Lamastou, qui est un vieux monstre qui date de très longtemps, mais lui aussi, il est représenté en général avec des seins importants, il a tout un tas de connotations féminines, et puis en même temps, il a aussi un sexe masculin. Alors là, on peut se poser la question de savoir que veulent dire ces mélanges qui apparaissent. Il y a deux façons, en fait, au moins, en tout cas, de le comprendre. Soit on va essayer de redonner du pouvoir au féminin en lui mettant des attributs masculins, hein, c'est-à-dire qu'on va remélanger les genres, ou alors on est aussi peut-être dans une configuration assez typique de ce qu'on a, enfin, des réflexions. Des chercheurs qui vont du côté du post-colonial en montrant que quand on est dans une situation de crise et de domination où il y a des mélanges de populations, comme c'est le cas ici, on va avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'hybridation, c'est-à-dire qu'on va avoir des mélanges, et c'est par ces mélanges qu'on va essayer de résister à une idéologie plus forte. Et on voit que là, on récupère des choses très anciennes et on va les réinterpréter, les refigurer autrement, et qu'on est plutôt dans des contextes domestiques. Donc ça montre là peut-être qu'il y a des élaborations différentes du masculin et du féminin qui répondent à des situations de crise et de mélange et de difficultés, de précarité qu'on est en train de vivre. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir ce genre d'éléments. Il faudrait continuer à en discuter. En tout cas, on voit comment on a ces représentations qui se mélangent. Et vous avez encore ici des amulettes. Donc, vous voyez, quand on parle d'amulettes, on parle de petites choses qui sont transportables, utilisables par tout le monde. Ce n'est pas des grandes statues dans des temples. Hein. Avec, donc, en ce qui concerne la Mashtu, en tout cas, continuer à faire de plus en plus de lui un personnage qui garde une poitrine féminine, mais qui acquiert à la fois un sexe de plus en plus grand d'ailleurs, et parfois même une barbe. Ici, il est barbu. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi ce motif qu'on retrouve très souvent, qui est le motif de la déesse qui relève ses jupes, en fait. Et qu'on trouve dans beaucoup de civilisations et de moments du Proche-Orient ancien. Ici, vous avez une représentation du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc à Assur, donc du côté assyrien, où on voit très clairement que cette figure-là est une figure féminine, en tout cas elle a les attributs d'un sexe féminin. Ici, dans le Levant à Tel Dor, donc sur la côte, on a une figure qui n'est pas très marquée, en tout cas on l'a habillée, elle n'a plus un sexe visible comme là, et dans une représentation grecque ici, elle a acquis aussi un pénis. Donc vous voyez comment le masculin, le féminin est quelque chose d'assez culturellement pas toujours fixe, et que on a ces créations d'images hybrides qui peuvent un peu nous interroger et nous faire réfléchir dans nos réflexions d'aujourd'hui concernant ces représentations. Alors j'arrête là pour mes petites images. C'est d'ailleurs le moment où vont apparaître aussi de façon assez massive des représentations de mères assises allaitantes, hein, parce que Marie n'est que la suite de toute une tradition, là aussi, qui existe depuis bien avant. Alors, ça, c'est les images dont nous héritons, et dont on peut essayer de faire quelque chose quand on parle de cette représentation du masculin et du féminin. Il y a aussi les mots. Et alors là, pour les mots, ben, on a nos textes. Hein. Et je voulais m'arrêter avec vous sur un texte qui est quand même un des os durs de l'Ancien Testament, parce que c'est un texte qui n'est pas facile à lire et pas facile à faire lire, et qui est complètement dans cette représentation d'un dieu mâle et puissant, c'est Ézéchiel 16. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu beaucoup de prédications sur Ézéchiel 16. A priori, comme ça, je dirais pas beaucoup. Hein. Et même si vous voyez ce que c'est qu'Ézéchiel 16. Alors, c'est un long texte, donc je ne vais pas vous le lire d'emblée comme ça, je vais juste le commenter un peu au fil du texte. Ézéchiel 16, c'est un texte très très dur, qui est le réquisitoire d'un mari jaloux. Le mari, c'est Yahvé. La femme, c'est Jérusalem. Et à partir de cette métaphore-là, on va raconter des choses incroyables sur la façon dont cette femme est traitée. Là encore, je trouve que, moi personnellement, je trouve que c'est tout à fait intéressant qu'on ait des textes comme ça dans nos archives et nos traditions, parce que tant qu'il y aura des femmes qui sont traitées comme ça, et malheureusement, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait intéressant qu'on ait un texte qui en parle. Alors la métaphore de cette femme infidèle est développée aussi ailleurs. Il y a 4 ou 5 textes comme ça dans l'Ancien Testament. Il y a Osée 1 à 3, il y a Jérémie 3 1 à 15, et puis deux chapitres d'Ézéchiel, donc ce chapitre 16 et le chapitre 23, qui reprennent cette image sous des formes différentes, mais toujours avec cette idée d'un mari jaloux et d'une femme infidèle pour parler des relations de Yahvé avec Israël. Et c'est un parcours de conjugalité extrêmement chaotique, avec des tensions très fortes, voire caricaturales. Alors, ça commence comme un oracle prophétique, hein, « Il y eut une parole du Seigneur pour moi ». Bon, jusque-là, tout va bien. Le verset 2 dit « Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations ». Donc, « abomination », c'est un terme du vocabulaire sacerdotal, pour dire que les choses les plus graves sont en train d'être commises en matière d'impureté et qu'il ne faut pas les faire. Et alors on va raconter ça dans le détail. Alors d'abord, il y a un premier passage dans ce texte d'Ézéchiel, des versets 3 à 14, qui rappelle les bienfaits passés. Et on va raconter la naissance de cette femme. Et il est dit, « Par tes origines et par ta naissance, tu es de la terre de Canaan, ton père était l'Amorite et ta mère une Hittite. » Alors ça veut dire que cette fille-là, elle a des parents étrangers. Donc ça commence pas très bien. D'avoir un père amorite et une mère hittite, qui sont non seulement des étrangers, mais aussi des peuples avec lesquels on fait la guerre, ça n'augure rien de bon. Et puis verset 4, il va décrire sa naissance. Et il dit, à ta naissance, au jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté de sel ni enveloppé de linge. Donc une naissance très particulière pour cette petite fille complètement abandonnée, qu'on va voir se débattre dans son sang, qui va être recueilli, nourri, vêtu, et puis ensuite épousé par le personnage qui parle, Yahvé, qui n'est jamais nommé, mais qui se montre comme d'abord un père adoptif et ensuite un mari, et qui accomplit tous les rôles. Vous voyez l'ambiguïté dans laquelle on est. Et tout ça est raconté avec beaucoup de mots qui font référence à un Dieu créateur. On est dans une situation un petit peu semblable à ce qu'on a dans la Genèse, c'est-à-dire un moment d'avant la création, une espèce de tohu-bohu, de cosmos non organisé, que Yahvé va organiser pour faire en sorte que cette petite fille puisse grandir. Et il va commander par la parole, « Je t'ai dit, alors que tu étais dans ton sang, vie, je t'ai rendue vigoureuse comme une herbe des champs. » Donc c'est bien une sorte de travail de création qu'on a là. Et donc, après tout ce rappel des bienfaits passés, on va passer aux accusations. Parce qu'à partir du verset 15, il y a un « mais » qui arrive, et là, ça se passe très mal. Parce que l'accusation, c'est adultère, prostitution de l'épouse, qui vont provoquer honte et déshonneur, pour le mari essentiellement, et briser l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 15, cette petite fille qui est devenue une femme, elle va commencer à agir. Avant, elle était complètement passive. Là, elle devient sujet, mais elle ne devient sujet que de verbes qui tournent tous autour de la prostitution. Donc, c'est une femme qui n'a d'initiative que dans la dépravation. C'est une vision assez particulière de la possibilité d'être sujet. Mais rien d'autre n'est envisagé. Donc beaucoup de figures qui dénoncent un aspect sexuel insatiable de cette femme. Elle n'est jamais en repos. Elle paye même les passants pour qu'ils acceptent ses services. Enfin, on est dans l'exagération et la caricature la plus totale. Et le verset 30 dit par exemple « Tu as le cœur fiévreux d'une prostituée despotique ». Donc elle s'obstine et on termine par toutes ces images d'accusation qui vont annoncer donc un jugement. Et ça, c'est les versets 36 à 43. Et alors le jugement est terrible parce qu'elle va être punie par où elle a péché. Coupable d'adultère et de débauche, elle s'est perdue et elle va être perdue. Exposée, elle va être exposée. Elle méprisait, elle va être méprisée. Donc le retournement est clair dans les mots du texte. Non seulement elle va être punie par son mari, par la violence, mais en plus il va rassembler tous ses amants qui vont la punir et pratiquement la tuer. C'est absolument terrifiant quand vous lisez ça, avec en plus des tas de mots à double sens. En hébreu, par exemple, « ils raseront ton estrade et démoliront tes podiums ». Ça peut faire évidemment référence à l'idolâtrie, raser les autels qu'elle a construits pour l'adoration d'images phalliques, mais c'est aussi probablement une façon de parler de viol collectif. « Ils te lacéreront de leurs épées ». Donc on est au comble de la violence totalement déchaînée. Et alors après toute cette violence, la colère va tomber. Alors je vous passe le sort des sœurs, parce qu'en plus elle a des sœurs qui sont Samarie et Sodome, donc des villes complètement perdues, mais elle est tellement plus perdue qu'elle va réussir en quelque sorte à sauver ses sœurs de la colère. Et dernière partie, le verdict, hein, qui s'inspire en fait du châtiment pour les femmes adultères qu'on trouve en Deutéronome 22, la mort infligée par les hommes de la ville. Et là donc ce n'est pas seulement les hommes de la ville, mais aussi tous ces amants. Je les rassemblerai contre toi de partout, je dévoilerai devant eux ta nudité, je t'applique le châtiment des femmes adultères et de celles qui répandent le sang, je te mettrai en sang par ma fureur et ma jalousie. Donc en fait, abus sexuel. Donc une fureur passionnée qui fait éclater les cadres légaux et qui détruit ce corps d'abord aimé puis rejeté. Et verset 42, j'irai jusqu'au bout de ma fureur contre toi. Et alors, il y a une nouveauté tout à la fin, au verset 59 à 63, où on a une sorte de restauration. J'agirai à ton égard comme tu as agi toi en rompant l'alliance. Moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au jour de ta jeunesse. J'établirai avec toi une alliance éternelle. Après tout ça, on se demande avec qui d'ailleurs, parce que je ne sais pas qui reste de cette femme après le traitement qu'elle a subi. Mais il y a encore la possibilité d'une alliance éternelle. Et alors, pourquoi il la laisse vivre ? Tu te souviendras de ta conduite et tu seras confuse quand tu accueilleras tes sœurs aînées auprès de tes cadettes. J'établirai mon alliance avec toi, alors tu connaîtras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes, afin que tu sois honteuse et que de confusion tu ne puisses plus ouvrir la bouche lorsque je t'absoudrai. Donc elle est restaurée pour qu'elle se rappelle toute sa vie sa honte. C'est ça la figure de l'espérance. Alors qu'est-ce qu'on fait d'un texte comme ça aujourd'hui ? On le balance. Il y en a pas mal qui seraient pour ça, oui. Alors, ce texte, à mon avis, il pose beaucoup de problèmes, mais j'en discernerai comme ça trois. Le premier, c'est un problème culturel, hein, parce qu'on utilise pour parler des relations entre Dieu et Israël la métaphore du mariage. Mais le mariage ici, enfin quand on parle de mariage dans ce contexte, il s'agit d'un mariage entre inégaux, entre un fort et un faible. Le mariage de deux personnes égales n'existe pas dans ces sociétés. Le corps de la femme est la propriété de son mari et l'adultère est un délit de propriété. Une femme ne peut être que conquise ou dominée. Et il me semble un peu difficile de prendre ces textes-là aujourd'hui pour réfléchir sur la conjugalité, sur l'adultère, sur tout ce que vous voulez de la vie d'aujourd'hui, parce qu'on peut espérer, en tout cas, qu'on soit dans une autre conception du mariage et du couple que celle-là. Donc c'est déjà important de prendre conscience de cet énorme écart culturel. En même temps, on a aussi un deuxième problème qui est un problème de type anthropologique. Ézéchiel est un prophète, mais il est aussi un prêtre. Et il a un point de vue de prêtre sur le corps des femmes. C'est un point de vue qui consiste à essayer de dominer ce corps. Parce que le grand problème qu'on trouve dans beaucoup de textes sacerdotaux, c'est qu'il y a des choses qui sont souvent difficiles à contrôler, en particulier tous les écoulements des corps. Dans les Lévitiques, vous trouvez toutes sortes de réflexions là-dessus. Et c'est un grand problème pour les prêtres de savoir comment faire avec, en particulier, les trois liquides essentiels que sont le sperme, le lait et le sang. Et on est ici dans... Parce que ne pas maîtriser ces écoulements, c'est une possibilité de retourner au chaos d'avant la création. Donc c'est extrêmement important. Et le corps des femmes est vraiment un truc incontrôlable à ce niveau-là, et ça pose énormément de problèmes. Donc on essaye de les dominer le plus possible. Et en particulier au moment de l'exil et après l'exil, quand on est dans cette période de crise qui comporte beaucoup de risques de retour au chaos, on va d'autant plus essayer d'exercer ce contrôle. Et ici en particulier avec le sang. C'est un texte qui est rempli de sang du début à la fin. Troisième problème, qui serait un problème théologique, Ézéchiel choisit de dire Dieu comme ça, c'est pas rien. D'avoir un dieu, d'avoir comme dieu un mari jaloux prêt à faire violer sa femme par toute une bande d'hommes prédateurs quand il estime qu'elle ne s'est pas conduite comme elle aurait dû. Et donc, comment faire? Est-ce qu'il faut préférer un dieu politiquement correct? Je pense que si ce texte avait été écrit aux États-Unis aujourd'hui, il aurait été interdit. Parce que c'est pas un dieu acceptable. Il me semble que pourtant c'est important d'avoir un texte comme ça dans notre corpus, d'une part pour ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que nous ne sommes pas exempts de ce genre de problème dans notre christianisme, ce n'est pas seulement le problème ou l'affaire d'autres religions qui seraient plus barbares ou moins évoluées que nous. Et moi ce que j'ai remarqué, bon, il m'arrive assez souvent de lire des textes de ce genre-là avec, enfin pas trop souvent quand même, hein, mais ça arrive avec des femmes en Amérique latine ou des femmes africaines ou des femmes tout à fait européennes dans différents coins du monde. Et j'ai remarqué que c'est extrêmement intéressant qu'il y ait un texte comme ça parce qu'il lève les tabous. C'est-à-dire il parle des choses dont on ne parle pas. Et souvent, c'est un texte qui peut permettre à des femmes de raconter leurs histoires qui sont souvent pas bien loin de celles-là. Et donc qui est générateur de paroles et générateur de libération parfois. Donc je trouve qu'il ne faut pas le jeter trop vite. Parce que tant que justement ces situations existent, il est bien qu'on puisse les lire aussi dans nos textes fondateurs. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, justifier le scénario qui est décrit ici. Mais quoi en faire ? Je crois que là, on est obligé de s'affronter à un dieu de la démesure. Et je reprendrai ici quelques observations d'un article de Paul Beauchamp qui a travaillé sur le parallèle entre ce texte d'Ézéchiel 16 et Romains 11. Et où il dit, le temps de l'exil, le temps de la crise, c'est un temps d'excès du malheur. Mais c'est aussi un temps où on va faire reculer les frontières de l'espérance au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et Ézéchiel 16 est l'allégorie la plus excessive, là où la démesure propre à Ézéchiel et celle de son époque se rencontrent. Ce qui donne ce texte complètement extrême, où Dieu est dit dans ce registre de la démesure. Et peut-être aussi faut-il reprendre et réfléchir à cette image du Dieu de la démesure qui est présente aussi dans notre époque. Comment reconstruire quelque chose une fois qu'on est allé si loin, jusque-là ? Ézéchiel se permet d'aller là. Pas facile à lire, il nous relance au-delà de nos frontières et de nos habitudes. Peut-être faut-il aussi voir dans ce Dieu-là, non pas le Dieu personnage, le personnage du mari, mais l'espace que le texte ouvre pour pouvoir justement parler de cette violence et de cette jalousie. Alors, heureusement, tous les textes prophétiques ne sont pas comme ça, et les théologiennes féministes ont aussi relevé un certain nombre de textes qui évoquent une figure maternelle de Dieu, assez différente. Et en cherchant un peu, on trouve toute une série de textes qui utilisent des images qui sont en général attribuées au féminin dans les constructions sociales du genre, c'est-à-dire la maternité, le soin, l'éducation. Elle propose aussi de partir d'autres notions pour dire Dieu, comme celle de la sagesse divine, Chorma, ou de l'esprit divin, Ruach, qui sont des noms aussi féminins. Alors, je ne vous cite pas 36 000 textes, mais on peut penser par exemple à la bénédiction sur la tribu de Joseph en Genèse 49 qui dit « C'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. » Donc juste là, on est tout à fait dans le Dieu mâle et père, hein, qui te bénédira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ça, c'est quand même, vous voyez, on retrouve un peu ce mélange du masculin et du féminin qu'on avait aussi dans les représentations. On a aussi, dans un certain nombre de psaumes, l'idée de Yahvé comme une mère poule sous les ailes de laquelle on va se réfugier, ou de maman aigle même en Deutéronome 32, 11, 12. Où il y a aussi cette idée du refuge. Et un autre texte important pour les figures maternelles, qui a été beaucoup relu dans la tradition féministe, c'est celui de Osée 11, qui reprend l'alliance et l'exode, en montrant cet exode comme un père ou une mère, parce que là, on peut s'interroger, qui emmène par la main un enfant. Et Israël étant cet enfant conduit hors de l'Égypte. Donc une autre façon de représenter l'Exode avec ce vocabulaire maternel ou paternel. Parce qu'en général, on le lit comme une figure paternelle, mais en fait, on pourrait aussi y voir une allusion assez forte à une figure maternelle, d'autant que cette idée de Dieu qui parle de ses émotions, qui retient sa colère, qui allait de son enfant avec un corps de femme, on peut voir des allusions à ça dans Osée 11, sont aussi assez typiques de la façon dont Ishtar était représentée comme légitimant le pouvoir royal par ce genre de figure qu'on retrouverait ici. Et peut-être, suggère quelques lectures féministes aussi, parce qu'il y a une formule qui dit « je suis Yahvé et pas Ish ». Ish, c'est l'homme. Hein? Donc, que faire de cette formule-là en Osée 11 ? Peut-être, disent certaines, que dans ce temps de grande crise politique et religieuse, les images masculines de Dieu ont perdu leur pouvoir persuasif et que la seule chance de s'en tirer, c'est l'amour maternel. Mais tout ça ne nous suffit pas parce que plusieurs questions restent après avoir récupéré une image maternelle ou féminine de Dieu. Alors, premièrement, bon, on ne peut parler de Dieu qu'à partir de sa propre expérience, forcément limitée, mais est-il nécessaire, utile, d'utiliser des symboles anthropomorphes, On sait que le langage humain n'est pas très adéquat pour parler de Dieu et qu'il est bien difficile de trouver autre chose que de parler de lui en négatif, pour protéger son altérité. Mais voilà, que faire du langage anthropomorphe pour parler de Dieu ? Et deuxième question, si on utilise du langage anthropomorphe, les femmes ont-elles besoin d'imaginer une image de Dieu féminine pour se sentir à l'image de Dieu ? Là encore, les débats sont ouverts. Tout le monde n'a pas la même réponse. Alors, peut-être que oui, si l'image paternelle est devenue, ce qui est quand même assez largement le cas, l'unique façon de dire Dieu, et que du coup, ça devient une figure exclusive et excluante. La figure du Dieu-Père devient idolâtre parce qu'on a oublié au fil du temps la distance qui sépare justement le langage humain de la réalité de Dieu. Et donc, on ne peut que dénoncer ces dérives idolâtres où la partie devient le tout, devient une image fossile, sans la circulation d'air qui est nécessaire pour pouvoir toujours questionner la féminité ou la masculinité de Dieu. Parce qu'on pourrait dire aussi la même chose d'un Dieu-mère qui peut devenir tout à fait aussi idolâtre. C'est pas la peine de reproduire le stéréotype patriarcal à l'inverse, en concentrant d'ailleurs les métaphores féminines sur la maternité. Parce que là, on risque de tomber dans une espèce de nature féminine ou de nature masculine qui ne va pas nous amener bien loin. Il faut donc sans cesse redéfinir ce qu'est la masculinité et la féminité et quels enjeux sociaux et politiques la façon de le définir crée. Et là, il me semble aujourd'hui extrêmement important d'éviter l'aspect bipolaire de l'opposition du masculin et féminin. Et dans ce sens, pratiquement pour finir, j'aurais une suggestion exégétique sur comment relire ce texte de Genèse 1:27 qui est quand même à l'origine de beaucoup de choses. Vous savez, ce texte où on dit « Elohim créa l'humain, l'Adam, littéralement, à son image, à l'image d'Elohim, il le créa, masculin et féminin, il les créa. » Alors bon, là-dessus, il y a une quantité de littérature qu'on peut lire. Il me semble d'abord que, je ferai deux remarques juste sur ce texte. D'abord, remarquez l'originalité de cette mention dans le récit de la création. Normalement, au Proche-Orient ancien, un récit de création, ça commence par une lutte contre le chaos. Il y a l'installation de la création par le Dieu. Et puis le couronnement, l'achèvement de cette création, c'est le temple, la construction du temple, avec l'installation de la statue du Dieu. Donc c'est de quoi il est question quand on dit Tselem, l'image dans le texte de Genèse 1:27. Donc l'installation de la statue dans le temple qui représente le Dieu. Alors ici, dans ce texte de Genèse 1, on a bien la création, donc qui n'est pas exactement une lutte contre le chaos, mais on la trouve dans certains psaumes un peu plutôt comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le couronnement de cette création, ça n'est pas justement la construction du temple. Ça viendra beaucoup plus tard, à la fin de l'Exode en fait. Ça inclut donc dans la création toute la partie historique. Et donc du coup, comme on se construit pas de temple, on n'installe pas la statue dans le temple, mais on va installer le couple humain dans le monde vivant. C'est ça qui remplace dans ce récit l'installation de la statue dans le temple. Et donc ce sont eux qui sont censés représenter la présence de la divinité. Et puis, deuxième observation sur ce texte, peut-être qu'il faut lire masculin et féminin, il les créa, ou mâle et femelle, enfin, on peut discuter de ça aussi, dans un autre sens que cette fameuse bipolarité et cette opposition masculin-féminin qui, en les réunissant, dirait le tout. Hein, un plus un ferait un ensemble. Parce qu'on pourrait aussi le lire en prenant pour exemple d'autres expressions qui existent très proches dans le texte, comme par exemple l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien dans la tour de Babel, les hommes qui veulent construire une ville et une tour. Qu'est-ce que c'est que ces expressions où il y a deux mots, hein, comme le, la connaissance du bien et du mal, ou bien la ville et la tour dans Babel. En fait, en hébreu, ce n'est pas une façon de dire deux choses. C'est une façon de dire, on vous donne les deux bornes, donc le bien et le mal, et puis il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Hein, la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas seulement la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas un et un, c'est la borne bien, et puis tout ce qui est bien, moins bien, pas très bien, un peu bien, et puis un petit peu mal, plus mal, très mal, jusqu'au mal. Donc c'est un éventail, si vous voulez, qui est replié sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La tour et la ville pour Babel, c'est la même chose. Construire une tour et une ville, c'est construire tout ce qu'on peut construire dans une ville, avec ces deux bornes qui symbolisent en fait les constructions humaines. Donc si on lit masculin-féminin dans ce sens-là, ça serait plutôt de lire que masculin et féminin, c'est les deux bornes, et puis entre les deux, ben, y a tout ce qu'il y a au milieu. Il y a du masculin très masculin, il y a du masculin un peu moins masculin, il y a du masculin un peu féminin, il y a du féminin un peu masculin, et puis on va jusqu'à la borne féminin complet au bout. Donc si on le lit comme ça, ben, on n'est plus dans l'opposition où l'un serait la négation de l'autre, ou en antithèse par rapport à l'autre, mais plutôt dans la construction d'un espace entre ces deux pôles, avec toute la gamme de ce qui peut exister entre ces deux bornes. Et dans ce cas-là, Dieu créerait l'humanité à son image dans tout ce qu'est la pluriel et du divers, avec une déclinaison de toutes les possibilités du masculin très masculin au féminin très féminin, en passant par toutes les nuances. Et ça nous ferait une sorte de Dieu un peu à l'image de ce qui est dit dans le déluge, un Dieu dont on se souvient aussi avec un arc-en-ciel, hein. Un Dieu, comme dit un auteur que j'ai lu, fléchisseur de genre, c'est-à-dire qu'il courbe toutes les catégories de genre pour en faire autre chose. Donc un Dieu, un Yahvé qui est un Dieu qui traverse les frontières, qui les fait traverser, toutes les frontières du genre aussi. Merci.
Voilà ma question ici. Oui, bon. Jésus, en parlant de Dieu, son Père, il me semble, si je peux dire comme ça, qu'il en a remis une couche. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis l'Église catholique avec le culte de la Vierge Marie, est-ce que ce n'est pas une façon de remettre le féminin dans le masculin, dans l'idée de Dieu? Je ne sais pas.
Alors bon, c'est des énormes questions, hein. Alors, sur la question de Jésus, bon, vous avez remarqué que moi, je suis professeure d'Ancien Testament, hein, donc je me suis arrêtée à la borne du Nouveau Testament. Non, mais alors, là aussi, on peut le lire de plusieurs façons, parce qu'effectivement, bon, bah, de toute façon, Jésus, il parlait avec les schémas de l'époque aussi, et donc il n'y a pas échappé, enfin, en tout cas, ce qu'on a, nous, c'est des témoignages des communautés qui, effectivement, avaient une vision aussi, une société tout à fait patriarcale. Il y a quand même une chose qui est intéressante à remarquer, c'est que le fait d'attribuer la paternité à Dieu dans la communauté chrétienne, ça implique qu'il n'y a plus personne d'autre qui peut prétendre à ce titre. Et que si c'est Dieu qui est le Père, il n'y a personne dans la communauté qui peut être le Père au sens du pater familias de la situation du Nouveau Testament, qui a droit de vie et mort sur les siens. Donc on pourrait quand même un peu réfléchir peut-être de ce côté-là. Mais bon, sur la question de l'Église catholique, j'ai lu aussi une théologienne qui faisait remarquer un truc que je trouve intéressant, c'est que, en fait, dans la théologie catholique traditionnelle, on privilégie plus justement le Fils que le Dieu Père. Parce que le Fils, il est justement censé être célibataire, etc., etc. Donc il est plus à l'image des représentants de Dieu sur terre, ce sont les prêtres. Et donc il y a toute cette question sur quel aspect on privilégie dans la masculinité qui peut être aussi intéressant à regarder et à chercher.
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour ce brillant exposé qui m'a posé bon nombre de questions.
Ben, c'est fait pour ça.
Je vous en remercie encore. Dieu a-t-il un genre? La linguistique peut-elle apporter une réponse? Je ne sais pas. Il est à noter cependant que Jésus était un homme. Il était peut-être célibataire, je ne sais pas. Mais Jésus sur terre était un homme. C'est une question que j'ai... Cela, à mon avis, pose un certain nombre de questions. Je me suis posé un certain nombre de questions à partir d'une remarque que m'a posée M. Chouraki, qui est professeur d'hébreu à Aix, et qui m'a cité un jour un adage talmudique selon laquelle de Dieu il ne faut parler, même pour dire s'il existe. J'insiste sur le « si ». Et non pas sur le... Voilà, ça fait partie des questions que je me pose. Je vous remercie.
Ben, je crois qu'on n'a pas fini de se poser des questions. Hein, mais la linguistique, elle ne fait pas tout, hein, évidemment. Mais l'intérêt, c'est quand même de reprendre les choses qui semblent évidentes. Enfin, je vous citais ce petit incident en Allemagne, là, au début. Je veux dire, il y a beaucoup de gens pour qui il va de soi que Dieu est un homme et qui n'ont jamais mis ça, le moins du monde, en question. Hein. Et on voit même quand on fait dessiner des enfants, il y a un collègue à Lausanne là, qui fait toute une recherche sur les représentations de Dieu par des enfants de différentes cultures. On voit des choses assez étonnantes, mais on voit aussi que dans des contextes comme les nôtres, Dieu continue quand même assez souvent à être... Il s'est un peu modernisé, parce que souvent, c'est plus un vieux bonhomme blanc en chemise de nuit, mais c'est devenu un Goldorak ou un super power mime. Mais enfin, il reste avec ces attributs-là, hein, très souvent. Donc... l'intérêt, c'est de se poser des questions là où il semble qu'il n'y en ait pas, parce qu'en fait, il y en a. Et la représentation de Dieu est une question qui montre quels sont nos modèles, quelles sont nos présuppositions, quels sont nos héritages sur lesquels ça vaut la peine quand même de continuer à s'interroger. Il n'y a pas d'évidence. Alors, il n'y a pas d'évidence de Dieu non plus, évidemment, mais...
Alors, d'abord, comment on peut dire le Notre Père? Deuxièmement, est-ce que Marie n'a pas présenté aussi une image féminine de Dieu dont on a abusé? C'est-à-dire qu'on a amplifié parce qu'on ne trouvait pas autre chose.
Oui, alors c'est vrai que vous aviez aussi parlé de Marie. Marie, c'est un cas intéressant, hein. De toute façon, ça vaut la peine de regarder dans les textes comment elle arrive. Et Marie dans la tradition et Marie dans les textes, c'est pas tout à fait la même chose. Marie, elle est devenue une médiatrice, en fait. Elle a un rôle féminin, mais vraiment ce rôle féminin de médiatrice, hein, qui permet justement avec le Christ d'être de pouvoir négocier avec le Père. Donc il y a une représentation comme ça de rôle tout à fait aussi à questionner, à interroger. Si on regarde dans les textes, la figure de Marie, elle est beaucoup plus intéressante que ça. À commencer par exemple par le fait que, par exemple, dans la généalogie de Matthieu, Marie, elle arrive au bout de 5 femmes, enfin c'est la cinquième des femmes qui sont notées dans la généalogie de Matthieu, et c'est toutes des femmes qui sont absolument pas des femmes de bonne réputation. Hein. Vous avez Tamar qui couche avec son beau-père, Ruth qui va se mettre au pied de Boaz la nuit sur l'air, vous avez Bethsabée avec la